Dimanche dernier, nous avons vu dans la lettre de Jude un appel à mener un bon combat pour la foi et à le mener dans le respect de l'autre, dans la fidélité. En contre-exemple, Jude donnait tout un petit catalogue de personnes qui combattaient de façon brutale et qui voulaient faire l'ange, et qui, voulant faire l'ange, faisaient la bête, comme on dit, ou même se prenant pour Dieu, ont été Satan. Ce matin, je vous propose de poursuivre cette recherche dans la Bible, bien sûr, en nous penchant sur un épisode douloureux du livre des Actes des Apôtres, racontant la première église chrétienne avec l'apôtre Pierre et la mort d'Ananias et Saphira. Alors c'est dans le chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres, à partir du verset 32. Ça se situe donc après la Pentecôte, où les apôtres ont reçu l'Esprit. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, n'était qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun pauvre. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils de l'exhortation », était un lévite originaire de Chypre. Il vendit un champ qu'il possédait, il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint, avec le consentement de sa femme, une partie du prix, puis il apporta l'autre partie et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit-Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. » Ananias entendit ces paroles, il tomba et il expira. Une grande crainte saisit alors tous les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce que c'est à tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » À l'instant même, elle tomba à ses pieds et expira. Et les jeunes gens, à leur entrée, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'église et tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Mais personne parmi les autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple, cependant, les louait hautement. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des litières et des grabats afin que, lors du passage de Pierre, au moins son nombre puisse couvrir l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors je vous propose de commencer à laisser résonner ce texte terrible en nous pour y chercher effectivement une parole de résurrection et de vie pour nous, en chantant le psaume 72 dans le psautier français. Les 3 premières strophes de ce psaume, « Revêt Seigneur de ta justice, le prince de la paix ». Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous unir à ta dynamique de vie. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne et permets que nous sachions recevoir, oui, ta parole, non seulement l'entendre, mais aussi la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi l'aimer, non seulement l'apprécier, mais la mettre en pratique. Et pour cela, ouvre par ton esprits, nos cœurs et nos mains à ta fidélité. Ce texte nous décrit donc la première église de Jérusalem. La multitude de ceux qui y avaient cru n'était qu'un cœur, n'était qu'une âme. Nul ne disait que quelque chose lui appartenait en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus avec beaucoup de force. Une grande grâce reposait sur eux tous, et il n'y avait parmi eux aucun pauvre. Est-ce que nous avons là une communauté idéale ? Est-ce qu'il y a là un modèle, finalement, de société, un modèle de vie, un modèle pour nos églises ? Alors, il y a des choses excellentes, bien entendu, mais si l'on regarde bien, le livre des Actes des apôtres glisse dans cette description une mise en garde très sérieuse. Parce que peut-être qu'il n'y avait pas de pauvres, mais il y a des morts dans cette église. Et puis, quand on regarde de plus près, cette mention que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, n'était qu'une âme, n'avait tout en commun, c'est pratiquement une citation tirée du livre de la Genèse dans la description de l'humanité à Babel, avant que Dieu n'intervienne. Et un peu plus haut, dans ce même livre des Actes des Apôtres, le récit de la Pentecôte est une référence à ce même Babel, avec la communion par une même langue comprise de tous. Il me semble donc clair qu'ici, le livre des Actes considère que Pierre est en train de faire de cette première église de Jérusalem une nouvelle Babel. Alors c'est une mise en garde sévère sur la façon de bâtir une communauté. N'est-elle pas trop étroite ? Est-ce qu'elle n'enferme pas les individus dans une pensée unique, dans une théologie unique, dans une prédication unique, dans une morale unique qui s'impose à chacun ? Est-ce que cette recherche d'élévation, de grâce, de grandeur, d'élévation spirituelle ne serait pas trop humaine, ne pas trop forgée à main d'homme, au lieu de laisser simplement Dieu à l'œuvre au cœur de chacun ? Et que fait ici l'apôtre Pierre ? Est-ce que cette église qu'il bâtit ainsi va dans le sens de la résurrection et de la vie qu'il l'annonce de sa bouche, ou bien va-t-il en direction de la mort des plus faibles ? Le Nouveau Testament n'est jamais, en fait, complaisant avec les apôtres. Il les présente tels qu'ils sont, à la fois géniaux, comme nous le sommes aussi, et parfois pêcheur, parfois simplement à côté de la plaque. Tout cela peut nous faire réfléchir, les bons côtés comme les mauvais, et peut nous faire avancer en gardant comme point fixe le Christ et sa bonne nouvelle de la grâce de Dieu, grâce qui accompagne bien sûr le pécheur en premier lieu. C'est pourquoi notre idéal, notre modèle de vie, de société, d'église, ce n'est pas cette première église des apôtres à Jérusalem, mais c'est Jésus-Christ. Les apôtres ont dû, comme ils pouvaient, assumer une autonomie toute neuve, un peu comme des adolescents découvrant pour la première fois une liberté totale en partant un an à l'étranger pour Erasmus ou je ne sais quoi. C'est pas facile. Alors les fondations sont excellentes sur lesquelles bâtissent les apôtres pour faire cette première église. La solidarité et l'annonce de la résurrection du Christ. N'est-ce pas là l'essentiel ? Eh bien si. Il y a là le cœur de la morale, cœur de la théologie, d'une dynamique de vie au cœur de chacun, plus forte que la mort. Pierre n'a-t-il pas raison de tout faire pour développer cela ? Oui, mais pas n'importe comment. C'est le Christ qui crée l'unité par l'Esprit. C'est cela qu'annonce l'Évangile. Quand les hommes veulent imposer l'unité, c'est bien plus délicat. Pierre et ses amis, croyant bien faire, veulent imposer l'unité dans leur Église, dans leur communauté. Jésus n'a jamais institué comme un système le fait de liquider tout son capital, outils de travail compris, parce qu'un champ c'est quand même bien ça, et de donner à des chefs d'église le capital pour qu'ils fassent la distribution. Pierre, lui, en fait une généralité, puisque ce texte nous dit « Pas une seule personne dans la communauté ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Et tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix et le déposaient aux pieds des apôtres. » Donc, c'est la pensée unique, la morale obligatoire. Je ne veux voir qu'une seule tête. Alors le simple fait de vouloir être membre de la communauté sans jouer tout à fait totalement le jeu, c'est ressenti par les chefs de cette communauté comme déchirant le corps visible du Christ. Ce qui est, à leurs yeux, une profanation impardonnable, bien sûr. Mais le Christ n'était pas du tout dans cette logique-là. Même ceux qui le crucifient ont le droit au pardon de Dieu, nous dit-il, et non à la mort. Mais de toute façon, Jésus ne s'est jamais lui-même pris pour Dieu, bien sûr, si l'on regarde les évangiles en tout cas. Et il a toujours travaillé pour la libération de chacun, pour que chacun puisse être en communication directe avec Dieu, pour que chacun puisse être inspiré par Dieu dans ses actes, dans sa vie. Et quand quelqu'un venait vers lui, il lui disait ensuite, « Eh bien, va, poursuis ton chemin. » Il ne le gardait pas enchaîné à ses pieds. Pourtant, les apôtres, avec de si bonnes bases et tant de bonne volonté pour être fidèles à l'Évangile, sont en train de créer une nouvelle Babel qui broie les individus. L'histoire d'Ananias et de Saphira nous montre comment, malheureusement. Alors ce récit est souvent, très souvent, depuis des milliers d'années, donc commenté d'une façon très moraliste. La première église des apôtres serait comme le jardin d'Éden où tout serait selon la volonté de Dieu, dans la solidarité, dans l'annonce de la résurrection. Ananias et Saphira sont interprétés comme les méchants de l'histoire. Ils répètent le péché d'Adam et Ève. Et donc, voilà, ce sont les exemples mêmes du péché et de la mort. Et la leçon donnée par ces moralistes, c'est que le mensonge est source de mort, et qu'il ne faut pas de demi-mesure dans l'engagement envers Dieu, il faut se donner totalement corps et biens. Cette lecture me semble dangereuse. Pourtant, je suis bien d'accord pour dire que c'est bien d'avoir une parole droite, de dire ce que l'on fait et de faire ce que l'on dit, qu'il est bon aussi de s'engager à fond dans ce que l'on pense être juste. Il y a là une bonne petite morale de base, mais l'appliquer à ce texte me semble contraire à l'Évangile dans ce qu'il y a de plus essentiel, comme quoi l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Est-il vrai qu'il ne faut pas faire de compromis dans sa vie, qu'il ne faut pas avoir un cœur partagé ? Ben, nous voudrions bien, effectivement, que les choses soient si simples dans la vie, mais en ce monde, ce n'est pas possible. Jésus nous résume tous les commandements, je l'ai encore dit au début de ce culte, dans un seul. Il faut aimer Dieu de tout son être, aimer son prochain comme soi-même. Concrètement, cela veut dire qu'il faut aimer Dieu à 100%, qu'il faut aimer son prochain, et encore nous avons nombreux prochains, à 100%, et aimer soi-même à 100%. Au total, ça fait 300%. Alors c'est possible dans le domaine des sentiments, effectivement, dans le domaine du spirituel. Mais pour que cet amour s'incarne dans des actes, et bien sûr, il faut qu'il s'incarne. On ne peut consacrer 300% de son temps, ni 300% de son argent à des actes pour Dieu, à des actes pour tous ses prochains, et puis aussi pour soi-même, car il faut bien aussi être en forme soi-même pour être en forme pour les autres et pour Dieu. 300% dans 100%, quand il s'agit des ressources matérielles, ça ne rentre pas. Même quand on est un pays riche, on a longtemps cru qu'on pouvait faire rentrer 300% de dépenses dans 100% de recettes, mais finalement on commence à comprendre que c'est un peu limite. Il faut donc faire au mieux, mais finalement il faut naviguer à vue en fonction des circonstances, en fonction des choix personnels. Jésus le montre dans ses paroles, dans ses actes, et c'est extrêmement, je dirais, responsabilisant. Par exemple, quand une personne a besoin d'être aidée le jour du sabbat, Jésus lui-même est face à ce dilemme. Soit il manque une occasion d'aider son prochain, soit il manque un geste de consécration à Dieu. Comment faire ? C'est pourquoi Jésus, lui, ne descend jamais au niveau de la simple petite morale, du moralisme de base, de la morale obligatoire pour tous. Mais il va plutôt dans le sens du développement de chaque personne, de chaque individu, pour que chacun soit capable de déterminer, à un moment donné de sa vie, grâce à Dieu, quel sera pour elle, ce jour-là, le chemin le plus juste possible, ou le moins pécheur possible. Jésus propose donc un idéal infini, oui, celui de l'amour, mais il n'entre pas dans les détails des décrets d'application et il ajoute qu'il faut aimer non pas aveuglément, mais en appliquant toute son intelligence, toute sa réflexion personnelle pour choisir comment optimiser cela. Et pour éclairer cette intelligence personnelle, cette réflexion personnelle, il apprend à chacun à prier Dieu d'une manière personnelle, dans l'intimité, seul à seul, nous dit-il, dans sa chambre fermée, soit avec Dieu. Car, voilà, ça passe par la réflexion personnelle, par la résurrection de chaque individu personnel, cette détermination de ce que nous devrons faire aujourd'hui. Il s'agit donc d'une éthique de la responsabilité, mais aussi d'une éthique spirituelle. Et comme nous sommes limités et que nous devrons faire d'inévitables compromis, Jésus insiste sur la grâce de Dieu, sur son indéfectible bonne volonté pour chacun d'entre nous, pour nous pardonner, pour nous aider, même si nous étions le plus mauvais des hommes. L'apôtre Pierre ici est dans une toute autre logique. C'est une communauté qu'il bâtit. Ce n'est pas d'abord des individus personnels. Il ne fait preuve d'aucune compassion pour Ananias et pour Saphira, qui brise cette unité, qui trouble cette communauté, cette unité qu'il bâtit, lui semble-t-il, à mon avis. Il aurait pu les féliciter, par exemple, d'avoir déjà donné une partie de leurs biens aux pieds des apôtres pour les pauvres. C'est déjà pas mal. Il aurait pu les féliciter d'avoir réfléchi, d'avoir décidé pour eux-mêmes en n'oubliant personne, ni Dieu, ni les prochains, ni eux-mêmes. Et si Pierre pensait qu'ils étaient pécheurs, et les plus pécheurs des pécheurs, il aurait pu leur dire, comme le Christ dit à la femme pécheresse, « Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance en paix. » Ou il aurait pu prier Dieu, comme Jésus le fait sur la croix, pour ses bourreaux, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il aurait pu ainsi les placer, Ananias et Saphira, dans une dynamique de résurrection et de vie, dans une dynamique de croissance, de progression. Alors oui, parler de la résurrection du Christ, c'est facile. Être dans le respect du pécheur, c'est plus délicat, c'est plus difficile. Au contraire, Pierre est dans une logique de la morale simpliste. Il est même dans une logique de la morale simpliste élevée au rang de vérité de Dieu, vérité absolue. Sans chercher à savoir pourquoi Ananias et Saphira ont menti, Pierre décrète que mentir aux hommes, c'est mentir à Dieu. Mentir à l'Église, c'est mentir à l'Esprit-Saint lui-même. Et quand il dit ça, Pierre va quand même extrêmement loin, car il faut savoir qu'un peu plus loin, un peu en amont, dans l'Évangile, bon, Luc est l'auteur des Actes des Apôtres, il est aussi l'auteur de l'Évangile selon Luc, on nous dit qu'il y a, voilà, tous les péchés seront pardonnés, mais qu'il y a un péché qui ne sera pardonné ni dans ce monde-ci ni dans le monde futur, c'est le péché contre l'Esprit-Saint. Alors j'ai déjà parlé de ça dans une prédication précédente, et puis on n'a peut-être pas le temps ce matin, sinon on sera encore là à midi et demi, mais il suffit à mon avis de relever que appliquer cette dénonciation de crime, de péché contre l'Esprit à une simple faute morale, c'est absolument ravageur. Pierre annonce ainsi nettement à Ananias et Saphira qu'ils sont perdus sans rémission possible. Et Pierre dit tranquillement à Ananias que Satan a rempli son cœur, complètement rempli son cœur. En hébreu, Satan, c'est un nom commun qui veut dire celui qui dénonce, celui qui accuse. Ben justement, c'est un peu ironique parce que ici, celui qui accuse, celui qui dénonce, c'est Pierre. Pierre qui ne relève rien de bon, Pierre qui dénonce, Pierre qui accuse de péché son frère, et même qui condamne avec la plus extrême sévérité Ananias et Saphira en qualifiant leur faute contre l'Église de péché contre l'Esprit. Comme le serpent de la Genèse, Pierre insuffle ainsi le poison du doute dans le cœur d'Ananias et Saphira. Doute sur l'amour de Dieu, doute sur la possibilité de sa miséricorde, doute sur la possibilité même pour Dieu de les ressusciter, de les sauver, de les faire acheminer vers la vie. Pierre remplit ainsi leur cœur du sentiment de culpabilité, du sentiment d'être indigne, d'être une abomination aux yeux de Dieu. Pierre va même être le tentateur pour Saphira, car il lui demande, comme s'il ne savait pas la réponse, « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ?» Alors certains commentateurs y voient une dernière chance laissée à Saphira, mais c'est clairement pour l'éprouver, et c'est clairement un mensonge. Lui aussi, c'est lui, Pierre, accusant de mensonge, qui ment à ce moment-là, par omission, car il fait semblant de ne pas savoir combien ça vaut, mais il savait très bien, en fait. Et puis, il place Saphira devant une alternative extrêmement cruelle. Est-ce qu'elle doit se sauver elle-même en reconnaissant la vérité, ou... Mais à ce moment-là, elle condamne son mari, si vous voulez, on ne peut pas tout garder. Et donc, elle ment à l'Église, et le couperet tombe, celui du jugement de Pierre, il l'accuse, elle aussi, de péché contre l'Esprit-Saint. Plus précisément, de tenter l'Esprit-Saint. C'est ironique, puisque ici, c'est plutôt Pierre, le tentateur. C'est lui l'accusateur, c'est lui qui fait douter de l'amour de Dieu. Pourtant, Pierre voulait bien faire, le pauvre. Il se veut le garant de cette bonne morale qu'est la solidarité, oui, c'est vrai, et de cette annonce essentielle qu'est la victoire de la vie en Christ. Mais même les plus grandes idées, même avec les plus grandes idées, on peut faire des armes de mort s'il n'y a pas de l'amour, comme le dit Paul. Et donc oui, Ananias et Saphira meurent, ils meurent ainsi aussi pour la communauté qui aurait vraiment besoin d'eux, en fait, et auxquels ils vont cruellement manquer. Par contre, il reste Barnabé. Barnabé, nous dit le livre de ce texte, eh bien, c'est le bon élève qui a donné, tout donné, lui, aux pieds des apôtres pour leur gestion raisonnée et centralisée. Le texte précise que Barnabas, ça signifie « fils de l'exhortation ». Oui, il est enfanté et il vit profondément de la prédication de l'Église, de l'exhortation de l'Église, de la bonne morale qui s'applique à tous, et de la théologie, l'enseignement de l'Église, s'imposant à tous. Mais Ananias, littéralement, cela veut dire la grâce de l'Éternel. Et avec l'attitude de l'apôtre Pierre, cette façon de vouloir formater dans une unité son Église, eh bien, avec cette attitude, la notion même de grâce de Dieu disparaît. Sa miséricorde est comme morte pour Ananias, mais aussi pour cette communauté avec la mort d'Ananias. On le voit dans ce texte, puisque aussitôt la foule est prise de crainte. Et Saphira en hébreu, cela veut dire saphir, comme en français, ce n'est pas très compliqué. Et par son côté éternel de ce diamant bleu, par cette couleur d'azur, le saphir évoque souvent dans la Bible le trône de l'Éternel, c'est-à-dire son règne finalement à l'intérieur du monde et de nous-mêmes. Et effectivement, Pierre dynamite le trône de Dieu quand il confond mentir à l'Église et mentir à Dieu. Quand Pierre traite de péché contre l'Esprit, le simple fait de rompre un petit peu la belle unanimité décrétée par les chefs de l'Église. Le résultat, nous dit le texte, c'est une grande crainte pour la plupart des gens. Et pourtant, ils viennent en nombre, car le levier du chantage, de la menace, marche en fait extrêmement bien. C'est très efficace. Mais ce n'est plus la grâce qui les fait venir, c'est la crainte. Crainte pour soi-même, crainte pour les siens, et puis l'espérance d'un miracle pour soi-même, pour les siens. Et donc finalement, c'est l'égoïsme, l'intérêt personnel qui va attirer les gens et non plus la simple grâce de Dieu. Comment Ananias et Saphira auraient-ils pu se sentir vraiment libres d'assumer leur choix personnel, inspirés par leur intelligence et par leur foi face à une telle menace ? Nous avons la crainte dans ce texte, alors que l'évangile du Christ, c'est la grâce de Dieu. C'est l'assurance que Dieu va jusqu'à aimer ses ennemis, nous dit Jésus-Christ, les bénir, leur faire du bien, les rechercher, même le plus pécheur parmi les pécheurs. Alors si l'on va vers Dieu, c'est par grâce, c'est sans chantage, puisque tout a déjà été donné en Christ. Et donc alors, c'est librement si nous allons vers Dieu, c'est librement si nous faisons des actes de solidarité. Parce que ça nous est inspiré par le bien, par Dieu, par nos choix. Ce n'est pas pour acheter l'amour de Dieu, pour ne pas être foudroyé ou pour bénéficier de miracles dans notre existence. C'est lui, Dieu, qui donne la vie à chacun et c'est à lui qu'il faut faire confiance pour réaliser l'unité entre des personnes individuelles, oui, toutes différentes et uniques. Ceux qui réalisent cette unité que nous voulons, bien sûr, dans l'Église et dans l'humanité, ce n'est pas de normer, de formater les gens, mais c'est le lien de la grâce et de la gratitude entre Dieu et nous, entre nous et Dieu, et puis mutuellement entre prochains. Soyons donc des enfants, des descendants d'Ananias et Saphira, enfants de la grâce de Dieu, enfants de l'action directe de Dieu dans notre vie, dans nos cœurs, dans nos pensées et dans nos actes, et pas seulement des Barnabés, des enfants de la prédication de l'Église. Amen.